Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Tu, quando vedi uno comunque piazza, il cappello ti devi levare! Il cappello ti devi levare! Il cappello ti devi levare! Il cappello ti devi levare!
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la trilogie du milieu de Fernando Di Leo, récemment éditée dans un superbe coffret chez Éléphant de Film, trilogie composée de Milano Calibro 9, sorti en février 1972, L'Empire du Crime, La Mala Ordina, sorti en septembre 72, et Le Boss, Il Boss, sorti en février 73. En gros, trois films sur un an, quoi. Ça en dit long sur le rythme infernal de travail des Italiens à l'époque. Si on a un peu de temps, je vous causerai aussi de Avere 20 et Annie, Avoir 20 ans de Fernando Di Leo, qui fait une sorte de complément à cette trilogie du milieu, que ce ne soit pas du tout un polar. C'est un drôle de film que nos amis d'Artus Film sortent également dans une superbe édition. Pour causer mafieux transalpin, je suis aujourd'hui accompagné de mes chroniqueurs les mieux armés, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et comme dirait Mario Adorf dans L'Empire du Crime, salut à toutes.
L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. La trilogie du milieu s'est causée poliziotesco, c'est néopolar italien sorti pendant les années de plomb, version bis des œuvres plus sérieuses d'un Francesco Rosi. trépidant pour certains, politiquement passionnant, ces films sont de la véritable dynamite. Bien que la majorité de ces films soient pompés sur Dirty Harry, hein, le témoin à battre de Castellari sort en 73, deux ans après le film de Don Siegel, et sont aussi pompés sur Death Wish, hein, un citoyen se rebelle, toujours de Castellari, sort dans la foulée du Winner en 74, ils conservent une identité singulière en s'inscrivant dans le contexte d'une Italie paranoïaque, ravagée par le terrorisme, la corruption et les exactions mafieuse. En résulte des films particulièrement réussis, des modèles de série B dynamiques, violents et souvent politiquement incorrects. Si beaucoup de ces films sont idéologiquement tendancieux, à l'image des polars d'Umberto Lenzi dont le démentiel est nihiliste, la rançon de la peur en 74 avec un Thomas Millian tétanisant, certains sont plus subtils, tels la poursuite implacable du génial Sergio Solima en 73 et cette fameuse trilogie du milieu signée d'un compagnon de route du Parti communiste italien. Enfin, on ne sait pas trop s'il était au PC, s'il était proche, s'il était... Enfin, bref. En tout cas, il se revendique plutôt de ce bord-là. Je veux bien sûr parler de Fernando Di Leo. Alors, la trilogie du milieu, c'est un nom qui est donné postérieurement à un triptyque, hein, tourné pour quelques lires par Fernando Di Leo entre 72 et 73 et portant sur le milieu de l'Italie du Nord. Alors, directement inspiré des films de Jean-Pierre Melville, cette série propose dans ses deux premiers opus un regard sur Milan, proche de celui du pape du néo-noir italien, Giorgio Serbanenko. D'ailleurs, les deux premiers films sont un peu des réécritures de nouvelles, en fait, de Giorgio Serbanenko. Par exemple, toute l'intro de Milan Calibre 9, qui est assez prodigieuse, avec des gens qui se passent une somme d'argent et qui se termine, enfin, qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, en fait, il se passe un petit paquet, là, et ça se termine par un apocalypse de violence. Ça, c'est carrément une nouvelle complète, en fait, de Serbanenko qu'on peut lire, hein, Serbanenko, qui a été retraduit et qui est publié aujourd'hui chez Rivage Noir. Alors, Serbanenko, il est mort à 58 ans, en 69, donc il n'a pas vu grand-chose de ce qui a été adapté, de la trace qu'il a laissée. C'est l'auteur majeur du polar italien qui a décrit avec un immense talent l'Italie des laissés-pour-compte du boom économique, en particulier via sa série des Duca Lamberti, dont Les Enfants du Massacre, adapté en 69, d'ailleurs par Di Leo, sous le titre La Jeunesse du Massacre en France. D'ailleurs, c'est là que Di Leo dit qu'ils sont devenus amis, parce qu'il était passionné par Serbanenko, et c'est là qu'il s'est inspiré de son univers pour cette trilogie du milieu, enfin tout du moins les deux premiers opus de la trilogie du milieu. Alors, à noter que Lamberti, Duca Lamberti, fut interprété par Bruno Kremer dans Cran d'arrêt, d'Yves Boisset en 1970, inspiré de Vénus privée, et que la trilogie, elle comporte en fait trois films, mais qui n'ont pas forcément été faits pour être reliés en trilogie. Ça s'est arrivé après, c'est a posteriori qu'on a décidé que c'était une trilogie. Alors, Il y a Milan Calibre 9 donc, qui sort en février 72 avec Gastone Moschini, Mario Adorf, Barbara Boucher. Il y a L'Empire du Crime, La Mala Ordina qui sort en septembre 72. On retrouve encore Mario Adorf et ce coup-ci on fait venir Henry Silva et Woody Stroh en tueur américain. Et puis il y a Le Boss qui sort en février 73 avec Henry Silva et Gianni Garco qui fait un flic ripou. Et trois films, les trois films sont vraiment très brutaux, très, 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 très sanglants. La ville de Milan est présentée d'une certaine manière comme on ne l'a jamais vu au cinéma. Là, je parle vraiment des deux premiers opus. Et c'est des films qui vont avoir certains soucis avec la censure, puisque par exemple, dans Le Boss, il y a un ministre qui va se reconnaître, donc il va porter plainte contre le film. Du coup, ils vont trouver un arrangement. Il y a une scène avec un dépôt de vin qui va disparaître du montage. Comme quoi, c'était pas très éloigné de la réalité, ce qui se passe dans Le Boss. Et on va reprendre les films dans l'ordre pour en parler, peut-être raconter un peu l'histoire. Milan Calibre 9, c'est une sorte de version italienne du deuxième souffle de Melville avec Gastone Moschini, acteur plutôt connu pour des rôles débonnaires, sympathiques, qui là reprend un peu le rôle de Lino Ventura dans le deuxième souffle. C'est un truand qui est soupçonné un peu d'avoir arnaqué la pègre et d'avoir fait disparaître un paquet de pognon. Mais il a donné personne, il est allé en toile, il purge sa peine, il sort et il retrouve son ancien patron, son ancien boss. Il dit qu'il est innocent. La police n'y croit pas, son ancien boss n'y croit pas non plus. Bon, il va devoir se rapprocher d'un vieil ami campé par Philippe Leroy, acteur très efficace, qu'on avait vu dans Le Trou, d'ailleurs, de Jacques Becker, qui était son premier rôle au cinéma. Ensemble, eh ben, ils vont essayer de redorer le blason de ce héros. Enfin, redorer le blason, ça on verra. Ça donne un film un peu particulier, parce que, avec une tonalité un peu morose, un peu triste, comme ça... très étrange, avec un retournement de situation quand même final assez très surprenant, hein, voilà, qui est un film avec aussi Barbara Boucher, inoubliable, hein, voilà, qui d'ailleurs trouve là un de ses meilleurs rôles, parce que c'est, alors bien sûr sa plastique est largement exploitée vu qu'elle était sublimement belle, mais lors du final, bah, je trouve il y a une scène où je la trouve très bonne dans la scène, je la trouve vraiment excellente. Elle se sert de son visage. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas raconter parce qu'on ne va pas dévoiler la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, il y a Mario Adorf, qui est assez impressionnant, en tueur un peu hystérique, un peu fou comme ça, très, très, très effrayant, qui prend l'accent en plus des gens rustres. Voilà, quand on le voit dans la VO, c'est flagrant. Et ça donne un polar qui a un côté presque lugubre, triste, où il n'y a pas tant d'action que ça, en fin de compte. Et qui est un polar qui va crescendo comme ça dans l'action, la violence, la noirceur. On est plus proche, en fait, du film noir que du poliziotesco. D'ailleurs, c'est un film hommage au film noir, que du poliziotesco tel qu'on l'entend, c'est-à-dire des films bourrés d'action, trépidants et tout ça. Là, on est plus dans un film, j'ai envie de dire, presque plus introspectif, même si on retrouve déjà dans Milan Calibre 9 ce qui fera le sel des prochains d'Ileo, c'est-à-dire... une grande faculté à mettre en scène la violence, un grand sens du rythme. Quand ça s'emballe sévère. L'introduction du film, elle est quand même assez saisissante, les premières minutes du film. Et puis, une direction d'acteur quand même au-dessus du lot. Et un traitement des personnages féminins un peu étrange. Voilà. Mais ça, on y reviendra, je pense, dans nos débats. Où par moments, ces personnages féminins sont quand même plus des faire-valoir. C'est quand même aussi un homme de son époque. Hein. Ils sont surtout là pour être sexy, quoi, par moments. Même si on verra dans Le Boss que c'est plus compliqué que ça. We'll be right back.
Milan Calibre 9 est un film que j'ai trouvé très sympathique. Fernando Di Leo le maîtrise parfaitement. Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'action et tout, et qu'il y avait une montée crescendo. Et je pense que c'est ça la force du film, c'est qu'en soi, il maîtrise toute son histoire du début à la fin. Et que sa fin reprend un peu un effet qu'on a un peu dans les nouvelles, et je pense que c'est sûrement parce que c'est un peu inspiré des écrits, c'est-à-dire que la nouvelle va nous raconter une histoire avec différentes péripéties, mais à la fin il va y avoir un certain enchaînement dans les révélations qui rend le tout délicieux. Et en fait, c'est ce qui donne, à mon avis, sa force au film, c'est finalement sa progression jusqu'à sa conclusion. Explosive.
Comme tu l'as dit, c'est un film qui est assez explosif, notamment le prologue, hein, au sens littéral du terme, hein, qui est assez explosif. Et un film. Bon, par contre, ça parle beaucoup. Hein. Moi, je trouve que ça parle quand même beaucoup. C'est quand même. Des trois, c'est celui où il y a le moins d'action, je trouve. Et effectivement, il donne une image du milieu de la pègre italienne qui est quand même assez mélancolique. Mais je pense que. C'est quelque chose qui est posé dès ce film-là, mais qu'on retrouve aussi dans les autres, quoi. Il y a quand même beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de... C'est même... J'irais même pas nihiliste, mais je trouve que ce sont des personnages qui ne croient pas du tout en leur avenir, quelque part. Ils ne croient pas du tout qu'ils peuvent se sortir de ce milieu, que ce milieu peut leur apporter quelque chose de bien. Ce sont des personnages qui sont assez désabusés, et j'ai pas l'impression que même ceux qu'ils font, qui croient en ce qu'ils font, tout du moins... Pas les parrains, mais tout du moins les gens en dessous. Par exemple, je pense au personnage d'Henri Silva dans Le Boss, etc. Mais je trouve que ce sont des personnages qui sont en général assez désabusés.
En fait, le seul personnage, en fin de compte, qui est un personnage avec un vrai... qui est vraiment intègre, en fait, c'est ce personnage de fou furieux de Mario Adorf, en fait, dans Milan Calibre 9. On découvre que c'est celui, alors que bon, il est complètement taré. Voilà, mais on découvre lors du final... On découvre que bon, il y a un petit psychopathe qui sommeille en lui, évidemment, mais qu'il est quand même. Il faut savoir que le mouvement de violence qu'il fait à la fin a été coupé au montage parce qu'il le faisait presque 20 fois, je crois. Voilà. Donc ils ont été obligés de couper au montage pour la censure parce que c'était trop, trop violent. Mais il n'y a que lui, en fait, dans sa réaction finale, qui nous prouve qu'il est un personnage, en fin de compte, un peu plus sincère, qui croit en ce qu'il fait. C'est tourné, en tout cas, à une époque où le mafieux, le gangster dans les films. Parce que c'est ça qui est le plus important dans cette trilogie et qui va culminer dans Le Boss. Le gangster et en particulier le mafieux est souvent montré au cinéma comme il y aurait des gens avec un code d'honneur. Voilà, il y a des gens avec un code d'honneur. Nous, on ne fait pas la drogue. Voilà, nous, on ne fait que ça. Ou on ne fait pas la prostitution. Voilà, tu touches à ça, on fait ça. Bon. Dans les films de Di Leo, ça vole en éclats. En fait, il n'y a pas de code d'honneur qui tienne. En fait, ces mecs sont des salopards, quoi. Voilà. Il n'y a pas de famille qui tienne. Et entre eux, ils ne se font aucun cadeau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très... c'est vraiment Di Leo qui va amener ça. Avec ses flics ripoux. Alors, il y a un personnage qui est un peu embêtant dans Milan Calibre 9. C'est ce flic intègre. Ce qui est très intéressant, c'est le reste des flics qui, eux, ne sont pas du tout intègres. C'est-à-dire que c'est des flics corrompus. Voilà. Clairement... ce personnage de flic corrompu d'ailleurs trouvera son aboutissement dans un excellent Di Leo qui vient juste après cette série qui s'appelle Salut les pourris avec Luc Miranda dans le rôle principal, super aussi, super film, peut-être un poil en dessous du Boss là, qui est le dernier opus de la trilogie là, mais quand même vachement bien, sacrément surprenant. Voilà, j'ai encore la VHS qui traîne, peut-être un jour un DVD, je ne sais pas, ou un Blu-ray de ce film. On peut rêver là quand on voit ce qui vient de sortir. Et c'est vrai que à l'image de ce que faisait Serbanenko, il y a une volonté de montrer la mafia, les truands, comme des gens peu recommandables, peu fréquentables, de pas les glorifier en fin de compte. Et ça, c'est vachement intéressant. Et ce voyou, là, Hugo Piazza, on ne veut pas déflorer l'intrigue, mais ce n'est pas l'homme d'honneur qui prétend être. Voilà, et c'est comme ça tout le temps. Et en fin de compte, le seul qui a un certain honneur dans celui-là, c'est Mario Adorf. Hein, il faut dire les choses. Le film Milan Calibre 9, il surprend quand même. Parce que si on regarde la carrière de Di Leo, bon, on sait qu'il est derrière les scripts des films de Léon et tout ça. Que voilà. Mais dans ce qu'il a réalisé, bon, il fait un premier film très anecdotique, Rose Rouge pour le Führer. Lui-même dit que c'est pas terrible. Ouais, mais enfin, il fallait bien qu'il se fasse les dents sur quelque chose en 68. Et en 69, il fait deux films, dont La jeunesse du massacre, adapté de Serbanenko, mais qui est franchement pas très réussi. Bon, le film débute très fort par une scène très malaisante de viol d'une institutrice par ses élèves. Et ça, c'est très, très glauque. La scène est très glauque. Mais bon, faut dire que le bouquin est aussi très glauque. Voilà. Mais le film n'est pas extraordinaire. Voilà. Et puis après, il fait un film 71, un film psychotronique complètement taré qui s'appelle Les insatisfaites poupées érotiques. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Un giallo complètement tordu qui se passe dans une clinique psychiatrique où c'est que des patientes et les patientes sont toutes des nymphomanes en fait. Voilà. Avec Klaus Kinski en toubib. Et alors évidemment, un docteur incarné par Klaus Kinski, on y croit à fond. Et ce que j'adore, c'est souligné d'ailleurs dans un des bonus par Laurent Aquenin, mais c'est quelque chose que tous les cinéphiles se sont dit, c'est quand même une clinique psychiatrique où il y a des armes accrochées au mur. Donc évidemment, ce genre de truc est totalement improbable. Et ça donne un film à la limite de la pornographie. Et d'ailleurs, il y a eu des versions porno en fait du film, avec des inserts et tout ça. Ultra violent, avec à la fin une explosion gore. On est quand même qu'en 71, ça pète de partout. Et donc, quand il arrive en 72 avec Milan Calibre 9, qui est un film plutôt introspectif, avec un film triste, hein, avec une vie de Milan très triste, avec un final très triste aussi, hein, voilà. Un peu un polar à contre-emploi. C'est pas encore la mode du poliziotesco, hein, c'est un des films précurseurs du genre. Le film détonne. Et on se rend compte que Di Leo a des choses à dire. D'ailleurs, il le traduit souvent. Hein. Il aime bien faire voir souvent des personnages d'incorruptibles. Donc là, il y a ce flic qui finit par se barrer, en fait, par, je crois qu'il demande une mute, je ne sais plus quoi, mais bon, voilà, qui finit par disparaître du paysage. Et en fait, tout reste aux mains des pourris, quoi. C'est des pourris, c'est tous des corrompus. Et ça donne une image, mais alors vraiment effrayante et de l'Italie de l'époque. Le deuxième film de la série, j'ai envie de dire, il a un côté plus fun. Voilà. Il a un côté plus fun. Dans le sens où c'est plus un film d'action assumé. La photographie, elle est plus lumineuse. Milan n'est plus montré de la même manière. La photographie est plus lumineuse. Alors là, on a Henry Silva ou Woody Strode. Deux tronches pas possibles. Alors, Woody Strode, c'est quand même le sergent noir de John Ford. C'est pas n'importe qui. C'est une véritable légende. Hein. C'est une des premières grandes stars noires du cinéma américain. Et un physique d'enfer. Parce que là, il a je sais pas quel âge dans le film, mais j'aimerais bien être gaulé comme lui à mon âge, moi. Donc, il envoie encore du lourd, hein, quand même, papy. Hein. Et là, bon, on a ces deux tueurs qui sont envoyés. Il y a un caïd américain. Au début, ça démarre aux États-Unis. Qui leur dit, bon, vous allez aller me tuer un type qui a arnaqué la mafia. Voilà, le mec, il a arnaqué la mafia. Sauf qu'en fait, ils choisissent un bouc émissaire parce qu'en fait, c'est un mafieux qui a arnaqué la mafia. Sauf que lui, comme c'est un salopard, il dit, non, c'est pas moi, c'est un petit Mac. un petit Mac dont tout le monde se fout, qui est interprété par Mario Adorf, d'ailleurs, qu'on retrouve dans ce film-là, qui est un petit Mac un peu fantasque. Un Mac qui a presque l'air sympathique, d'ailleurs, hein, ce Mac, hein, par rapport à d'autres personnages du film. C'est quand même un Mac. Mais enfin, lui, il a presque l'air sympathique. Et comment dire, il envoie ses deux tueurs à ses trousses. Mais rien va se passer comme prévu. Parce qu'en fait, Mario Adorf, à la bagarre, il est plutôt pas mauvais, quoi. En fait, c'est plutôt un bulldozer. Voilà. Rien va ne se passer comme prévu. Alors, il y a des choses un peu bizarres dans le film. Par exemple, ils sont chaperonnés par une femme interprétée par la très belle Luciana Paluzzi, qui a un rôle complètement accessoire. D'ailleurs, à un moment, il ne sait plus quoi en faire, il la tue. Voilà. Elle porte tout le temps des chemisiers transparents pour faire voir sa plastique avantageuse, parce qu'évidemment, elle ne porte pas de sous-vêtements. Voilà. Alors, c'est assez étrange, c'est assez symptomatique quand même du traitement des personnages féminins chez Di Leo quand même. Malgré, il se dit souvent féministe, mais enfin, il est aussi bien dans l'exploitation du corps de la femme à l'écran. Paradoxalement, il y a un personnage de femme qui est pote avec Mario Adorf, qui est un personnage très intéressant, qui est une hippie un peu maoïste, marxiste, on ne sait pas trop, enfin voilà, qui navigue dans ces sphères-là, voilà. Et Mario Adorf, en fait, il va tout péter, quoi. Ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et ça va donner un film quand même. Alors là, c'est pareil, ça va crescendo dans la violence, mais alors là, ça y va fort. Et franchement, des films tournés comme ça, avec 3 francs 6 sous sur quelques semaines, il y a une scène démente de poursuite dans ce film, qui est juste complètement hallucinante. On y croit en plus. C'est Mario Adorf, c'est un bulldozer. Rien ne l'arrête. Il pourrait lui faire tomber la tour de piste sur la tronche, il se relèverait. Et tu y crois à 1000%. Il se met à poursuivre un mec qui vient quand même de tuer des personnes chères à son cœur. Il est pris dans un accès de rage, de folie. Il se met à le poursuivre, prenant tous les véhicules qu'il trouve. Après, quand il ne trouve plus de véhicule, il y va lui-même. Il s'accroche directement au véhicule du gars. Un véritable massacre, cette scène, cette poursuite complètement démente. Rien que pour ça, il faut voir ce film. La performance de Mario Adorf, elle est extraordinaire. Et puis, comme tous les bons réals de série B, Di Leo, pour 3 francs 6 sous, il vous fait un film au montage bien nerveux, aux images bien captées sur le vif. Et une fois de plus, il donne à voir une ville de Milan comme on l'a jamais vu au cinéma. Hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon film, quoi.
Moi, c'est celui que je préfère des trois. Hein. C'est celui que je préfère. Effectivement, Mario Adorf, qui est quand même un physique un peu... Il a un peu un physique de brute, hein, c'est pas vraiment... Mais qui, là, joue un Mac très maniéré, très, qui fait très attention à sa personne, à la façon dont il est habillé, à la façon dont il est coiffé, les gominés, etc. etc. C'est très surprenant. Et il joue un Mac, et c'est un Mac surtout qu'on aime bien. C'est bizarre, hein. Bien aimer un Mac, c'est quand même quelque chose qui nous arrive pas tous les jours. Et ce pauvre homme qui a quand même une vie de famille, hein, il a une femme, il a une fille, etc. Et il a une vie de famille, mais il va se retrouver la cible, donc, comme l'a dit Gégé, de mafieux, et notamment ces deux tueurs, la mine patibulaire, voire même monolithique, surtout monolithique, hein, Moody Strode, il joue pas beaucoup dans le film, hein, il est là, et puis il fait rien, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que...
Mais il le fait bien.
Oui, il fait rien, il le fait bien. Tout ça pour dire que Mario Adorf est donc pendant 1h30, voire 1h50, il est poursuivi par de nombreux tueurs. Et comme tu l'as dit, il en fait la nique à tous, hein, parce que finalement, il se rebiffe. C'est ce que j'aime dans ce film, c'est ce personnage qui se retrouve seul contre tous, marginalisé, et qui essaie de survivre tant bien que mal, d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi on lui en veut tant que ça ? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui en veuille tant que ça ? Alors que c'est, après tout, c'est un Mac sympa. We'll be right back.
comme Thomas, des trois films, c'est celui que je préfère. Et tu fais bien d'insister sur Mario Azov parce que, en vrai, il a un physique que je trouve absolument génial. Il a une gueule, il a un corps qui dégage de la puissance. Ce qui fait que la scène d'action de fin, les enchaînements qu'il y a, notamment avec la course-poursuite que tu as évoquée, et Jérôme, et dont tu as dit que. Enfin, tu as parlé du montage qui fonctionne énormément, mais il y a aussi une scène d'action dans une case qui est absolument géniale. Pour moi, c'est le personnage qui porte tout le film en soi. Point de vue un peu moins positif, enfin ça va dépendre, c'est un film que je trouve aussi extrêmement violent. Par exemple, on a la mort d'un enfant, on a parlé de la mort d'un chat, mais il y a également un rapport aux femmes qui est extrêmement régressif sur elles. Et en fait, c'est vraiment pour moi Mario Adolf qui fait tout le film.
C'est sûr que c'est un film qui rigole pas, hein. Tout le monde y passe, hein. Les femmes, les enfants, les hommes, les chats, ça rigole pas du tout, hein.
Diléo, ça rigole pas généralement, hein, quand même, hein. C'est pas un cinéaste où, voilà, même s'il a fait des, mais c'est moins bon, hein. Il a fait des films où la tentation du, enfin, il faut bien bouffer, quoi, où il y a un peu de comique dedans et tout, mais bon. Il n'est jamais meilleur que quand il est sérieux, dit Léo. Et bon, Mario Adorf, alors on s'extasie tous, mais Mario Adorf, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un putain d'acteur allemand. Enfin, il est né en Allemagne, mais bon, de parents allemands et italiens. Mais voilà, c'est un acteur qui a une carrière extraordinaire. C'est un des rares acteurs, d'ailleurs, qui a... c'est rigolo, qui a fait de la série B, de la série A, comme ça, en discontinu tout le long de sa carrière. Je crois qu'on le voit dans Major Dundee de Peckinpah, il me semble. Il a un petit rôle assez, assez intéressant. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'on le voit dans Major Dundee. Voilà. On le voit chez Volker Schlöndorff, chez Dino Rizzi, on le voit chez Chabrol, on le voit... Il est révélé dans le film, il fait un tueur dingue dans les SS Frappe la nuit de Sion Max, c'est lui, le tueur. Donc, il fait un tueur en série. Et c'est un super acteur. Moi, Adorf, c'est toujours c'est un acteur que j'adore. Et effectivement, bon, il est chez Argento, chez Aldo Lado, il se prend... d'ailleurs, dans Je suis vivant, c'est le seul qui se prend un coup de couteau, qui justifie justement le fait que ce soit un giallo, parce qu'on dit souvent que Je suis vivant est un giallo, ce qui n'est pas totalement vrai, quoi, voilà. C'est plus un thriller parano. Donc, non, c'est sacré acteur. Et d'ailleurs, il est dans Cran d'arrêt aussi, qui est adapté de Serbanenko, dans Cran d'arrêt d'Yves Boisset. Le dernier film de la trilogie, hein, il reprend un des acteurs qui composent le duo Woody Strode-Henri Silva. Hein. Woody Strode-Henri Silva, d'ailleurs, le duo a inspiré le duo à Tarantino. Il adore Diléo à Tarantino. Et ça a inspiré le duo de tueurs dans Pulp Fiction de Samuel Jackson et John Travolta. Hein, voilà. Et on retrouve Henri Silva. Alors là, il est différent dans Le Boss, hein, qui est pour moi... Je suis content d'avoir vu Le Boss dans sa version intégrale, parce que moi, j'avais vu une version... J'avais une VHS, une version nettement plus courte, et je ne comprenais pas vraiment tous les enjeux du film. Bon, c'est pas un film ultra complexe, mais je ne comprenais pas tout quand même. Là, je suis content d'avoir vu cette version, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en VO, il y a les versions longues de ces films qui, fatalement, faisaient tous une heure et demie sur nos vidéocassettes. Là, ils sont tous plus près de deux heures que d'une heure et demie, quand même. Donc, à part Milan Calibre 9, qui n'avait pas eu grand-chose de coupé... C'est quand même vachement bien d'avoir des versions avec tout quoi dedans quoi. Bon, c'est sûr, il y a plus de dialogue et tout, et on comprend un peu mieux ce qui se passe dans le film. Alors qu'est-ce que ça raconte Le Boss ? Alors Le Boss, c'est simple. Alors Le Boss, déjà, ça débute par une scène d'anthologie aussi, une scène complètement hallucinante avec Henri Silva qui débarque. Alors c'est pareil, c'est quasi muet. Hein. Il aime bien, dit Léo, démarrer ses films par 5-10 minutes de scène sans dialogue quasiment. Qui débarque comme ça, en loose-dé, dans une salle de cinéma privée, où on devine un peu que ce sont des types peu recommandables, comme ça, qui se projettent des films porno au titre de projection privée, comme ça. Et lui, il débarque de la cabine du projectionniste et il les flingue. Mais il les flingue pas! Il les flingue pas avec un petit flingue, non. Il les flingue au lance-roquettes. Les mecs explosent de partout, il y en a partout. C'est complètement apocalyptique. Putain, tu vois ça? Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film de dingue? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça démarre très fort. Et en fait, qui c'est le personnage d'Henri Silva? Le personnage d'Henri Silva, c'est un homme de main. C'est un homme de main fidèle d'un ponte de la mafia qui l'a élevé, parce que c'est un orphelin, tout ça, qui l'a élevé, et qui l'a aidé à l'amener là où il est. Et donc, cet homme de main voue une admiration sans borne à son mentor. Et en fait, pas tant que ça. Et on découvre... Je pense que ça, c'est le film le plus nihiliste, en fait, de la série. On découvre que là, c'est tous pourris. Même le flic, campé par Gianni Garco, est une pourriture. Tout le monde est pourri. Le Vatican, les flics, la justice, la corruption à tous les étages. Et le seul personnage positif, pour le coup, c'est un personnage féminin. Mais là, c'est pareil, il y a encore toute l'ambiguïté de Dileo. C'est-à-dire qu'elle est à poil pendant quasiment tout le film. Elle est très belle. C'est une, je crois que ça s'appelle Antonia Santelli. Je crois que c'est une actrice qui n'a pas eu une grande carrière. Elle a tourné une dizaine de films sur 2 ans, puis elle a disparu. Elle a un rôle très intéressant parce qu'en fin de compte, c'est une femme libérée. C'est la femme de ce mafieux qu'emploie en fait Henri Silva. Et elle est kidnappée. C'est pas la femme, c'est la fille, pardon. Et cette fille, elle est kidnappée à la sortie de l'école. Voilà, enfin la sortie de la fac, on va dire. Voilà, elle est kidnappée à la sortie de l'université et elle est dans un cloaque, voilà, dans une sorte de hangar. En fait, on croit qu'elle va avoir à souffrir de ces hommes. Et en fait, c'est elle qui mène la danse. Elle leur demande de l'alcool pour picoler avec eux. Ils comprennent vite qu'elle est dévergondée, qu'elle fume des pétards, elle leur apprend bientôt à faire l'amour à une femme. Parce qu'en fin de compte, c'est des brutes épaisses, mais elle leur apprend comment donner du plaisir, tout ça et tout. Voilà. Et en fin de compte, c'est une femme qui se prend en main. C'est une femme assez libérée. C'est un personnage très ambigu, mais plus intéressant que les personnages féminins, quand même, des films précédents. Alors, cette jeune femme, elle est donc kidnappée, et son père est dans un état pas possible. Et donc, en gros, ils essayent de monter une opération avec Henri Silva, tout ça, pour récupérer cette femme. Et ce qu'on comprend vite, c'est que rien va ne se passer comme c'était prévu. Et ce qu'on comprend très, très vite, c'est qu'Henri Silva, en fait, il veut défoncer tout le monde, il manipule tout le monde pour pouvoir devenir le boss à la place de tous ses boss. Voilà. Et il va devenir d'ailleurs l'amant de cette jeune femme.
C'est un peu Is No Good qui veut être vizir à la place de vizir.
Ouais.
Oui, mais avec des méthodes beaucoup moins sympathiques. C'est Is No Good avec un lance-roquette. Voilà. Qui trahit tout, même ses meilleurs amis, tout ça, qui en fait est un fiefé salopard. Voilà. Et ce film décrit son ascension. Et c'est un film, moi, je trouve absolument fascinant. Sur le pouvoir, sur comment on prend le pouvoir. Et ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'il montre quelque chose qu'à l'époque, aucun film de mafia n'avait jamais montré. C'est-à-dire qu'on voit ce personnage de mafieux. Là, on n'est plus à Milan. On est en Sicile, on est à Palerme. Là, on est vraiment chez les rustres de la mafia. Mais la vraie mafia, en fait. Voilà. Et le film nous montre des choses qu'on verra 20, 30 ans plus tard, qu'on découvre encore aujourd'hui, et qu'on ne montrait pas du tout sur la mafia à l'époque. À l'époque, les mafieux étaient montrés... Bon, on a parlé d'ailleurs, ils avaient un certain code de l'honneur. Bon, ils l'avaient déjà démonté dans les 2 précédents films. Donc là, ils continuent de le démonter. C'est un massacre, voilà. Mais surtout, on découvre... On croyait qu'ils vivaient dans l'opulence, dans des villas, tout ça. Mais non, on découvre qu'ils ont plein de pognon. Ils ont un pouvoir monstre. Mais en fait, ils vivent cloîtrés dans des appartements minables, dans des cabanes au fin fond des bois... Ils vivent cachés, ils sortent jamais, ils vivent terrés dans des trous, quoi, voilà, comme des lapins dans leur terrier. Et ça, c'est fascinant parce que c'est vrai, en fait. D'ailleurs, le film, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle était obligée de couper des scènes parce qu'elles évoquaient des scènes malheureusement réelles, quoi, voilà, sans dire long sur l'Italie, et le degré de corruption qui y règne. Et c'est que, par exemple, Totò Riina, qui est un des mafieux les plus connus aujourd'hui, qui a été arrêté, il vivait comme ça dans une cabane, comme Henri Silva à la fin du film. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on pensait impensables quand on voyait le film à l'époque. Sauf que non. Les mafieux, ils savaient que c'était plus ça, leur réalité. Et ça, c'est quand même assez fascinant dans le film. Et après, c'est un film, de toute façon, qui joue sans cesse sur les twists, comme on dit maintenant, donc sur les rebondissements. Et il y a tout le temps des rebondissements. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'Henri Silva, il va se faire avoir. Et il arrive toujours à se sortir des situations... Il est plus malin que les autres, en fait. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est une ordure. Mais enfin, c'est tous des ordures, de toute façon. Voilà. Donc, et ça donne vraiment un film que moi... moi, j'ai du mal à dégager un de mes préférés, en fait. J'aime beaucoup les 3 films. J'ai envie de dire, contrairement à vous deux, d'ailleurs, que je trouve celui du milieu un peu plus faible, peut-être. Parce que je trouve qu'Henry Silva et Woody Strode sont plus en mode décontracte. Hein, dans le deuxième, ils en imposent pas des masses, je trouve. Voilà. En tout cas, ils font pas le figure à côté de Mario Adorf. Tandis que je trouve que celui-là, il y a un personnage féminin plus fouillé. Il y a Henry Silva qui est très bon. Je le trouve très bon, Henry Silva. Il est vraiment impressionnant. Il est très crédible. Voilà. Et du coup, je trouve que ça donne un film... Enfin, ça conclut magnifiquement cette trilogie, qui est quand même une trilogie particulièrement implacable. Écoutez Culture Prohibée spéciale Trilogie du Minuit.
Conclusion de la trilogie qui met, comme l'a dit au début Thomas, en avant beaucoup de mélancolie dans celui-là. Henry Sauvage joue un personnage qu'on pense du coup au début très loyal et qui a un regard assez froid et qui est un personnage extrêmement inquiétant, mais dont la valeur est en fait prouvée au début pour finalement être retournée. Et c'est vraiment une présence magnétique et sombre qu'il a. Et au final, tous les personnages se rejoignent par la même chose, qui est qu'ils se retrouvent dans des problèmes dans lesquels ils veulent se débarrasser, qu'ils soient mis volontairement ou non. Et ils cherchent un certain statut pour être tranquille, mais au final, on se retrouve avec cette idée que la tranquillité n'est jamais acquise dans ces milieux.
C'est sûr que cet opus, il rigole pas beaucoup. Hein. Il rigole encore moins que le deuxième. Pourtant, dans le deuxième, il tue un chaton. Hein. Attention. Mais ce qui me faisait dire que c'était mélancolique, c'est justement ces personnages de femmes. Le personnage de femme du troisième opus, là, du troisième film, qui apporte quelque chose d'autre et qui donne encore une autre dimension au personnage d'Henry Silva. Parce que quelque part, il est touché par cette femme, finalement. Et vers la fin, on voit que ce qui lui arrive n'est pas, c'est pas indifférent, quoi. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, ces personnages-là, aucun d'eux ne croit à ce qu'ils font. Finalement, ne croit au fait que la pègre, ça va les mener quelque part, quoi. Parce que, enfin, si, ça va les mener quelque part, ça va les mener au fond du trou, surtout. Vu que c'est un peu là où se retrouve la majeure partie du casting du film, d'ailleurs. Hein. Et c'est ce qui me fait dire ça, en fait. C'est ce qui me fait dire qu'il y a une vraie mélancolie dans ces films par rapport au fait que bah, ce sont des personnages qui, au-delà d'être nihilistes, ne croient pas vraiment à ce qu'ils font, quoi. Et ce personnage d'Henry Silva, en fait, je pense qu'il fait ça aussi parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il sera flingué lui-même. Il sera trahi par les autres.
En tout cas, c'est un film, bah, comme les deux autres, qui a la particularité d'avoir un final particulièrement puissant. Et c'est une marque de fabrique de Dileo qu'on retrouve hein, dans un film qui sort chez Artus Film, qui est « Avoir 20 ans »,« Avere 20 anni », voilà, qui est un film très étrange, un film de 78. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, ce film, je me suis dit « Mais c'est bizarre, tout le monde m'a parlé d'un film avec une fin complètement hallucinante, ultra violente, ultra dure. » Moi, je vois une sexy comédie italienne sur deux jeunes femmes, alors elles sont sublimes, hein, Lily Carati au sommet de sa beauté, Gloria Guida au sommet de sa beauté, deux reines d'ailleurs de la sexy comédie italienne, qui sont des jeunes femmes qui sont tentées par l'utopie, tentées par l'idée de vivre dans un monde meilleur et qui décident un peu comme ça, ils arpentent un peu l'Italie et puis ils se promènent à la rencontre de marginaux, à la rencontre voilà, d'autres personnages, d'autres gens de leur âge aussi, tout ça. Et c'est un... Comment dire ? C'est un film presque bucolique, comme ça, où on rigole et tout. Et puis un jour... Grâce à Artus Film, là, on peut voir la version longue du film, en fait, qui est le vrai montage de Dileo, qui, en fait, a fait peur à l'époque, et du coup, il a raccourci le film. Voilà. En fait, c'est un cauchemar, ce film. C'est un truc incroyable. Vous avez un film qui, pendant 1h20, est une sexy comédie italienne, avec les filles qui se dessapent allègrement, tout ça, enfin, voilà, avec un petit côté chronique des marginaux, voilà, bon. Et puis, tout à coup, il y a les 20 dernières minutes, où des types frustrés, des machos, des misogynes, décident de faire payer à ces filles leur beauté, leur insouciance, leur, voilà. Et les 20 dernières minutes sont tellement éprouvantes, voilà, que, on dirait que c'est Merzarki qui les a filmées, quoi. On dirait que c'est Ice Pite en Urgrev concentré en 20 minutes. C'est vraiment ultra, ultra violent, ultra dur. C'est vraiment à ne pas mettre devant tous les yeux. C'est complètement traumatisant. Et là encore, Dileo, eh bien, il démontre quand même un regard assez nihiliste, hein, malgré que ce soit un humaniste qui croit en fait en l'humanité. D'ailleurs, dans ses films de la trilogie du milieu, dès qu'il y a des types bien, il lise Il Manifesto, par exemple. Il lise un quotidien d'extrême gauche. Enfin voilà. En tout cas, pour Dileo, c'est le bon côté du manche, hein, voilà. Et il y a toujours des humanistes pour compenser et tout. Là. C'est un peu un film sans issue, quoi. C'est un peu un film totalement implacable. Et toute la gaieté, toute la fraîcheur que l'on a vécue pendant une heure et quart de film est complètement ravagée par un final horrible, totalement horrible, que je ne vais pas vous dévoiler, puisque c'est ça qui fait le sel du film. Je vais juste vous dire, par contre, que ce n'est pas un film à mettre devant tous les yeux et que c'est vraiment, là aussi, une totale réussite. Et c'est très courageux. Très courageux, Artus Film, de sortir ce film. Donc, je les remercie parce que c'est un film qui est assez peu connu dans la filmographie de Dileo et qui est, pour moi, là aussi, un film majeur sur ce qu'est le cauchemar italien. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.